Focus Sahel en direct de Washington sur VOA Afrique avec Eric Manirakis.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Et chaque soir, chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, la ruée vers l'or dans le sud-ouest du Burkina Faso, un reportage sur un site d'orpaillage de la ville de Bombora par Gilles Dasda. Au Niger, des jeunes défenseurs de l'environnement lancent la campagne « Un mouton, un arbre » pour reboiser après la fête de Tabaski. De passage au Mali, une délégation de haut niveau de l'ONU réaffirme son engagement à renforcer la mise en œuvre des objectifs de développement. C'est notre fait marquant de la semaine. Toujours au Mali, la deuxième semaine artistique et culturelle de Mopti met en lumière la culture comme facteur de paix et de développement. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. La région du sud-ouest du Burkina Faso, à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Ghana, connaît depuis plusieurs années un essor considérable dans le secteur de l'or. Dans de nombreux villages de cette zone, la ruée vers l'or attire massivement des orpailleurs venus de diverses localités du pays, tous animés par l'espoir de sortir de la pauvreté. Gilles Dasda s'est rendu sur l'un des sites d'orpaillage les plus importants de la commune de Bomblora. Voici son reportage.
À l'ombre des collines de Bomblora, ville située à 400 km à l'ouest de Ouagadougou, Topora, un site d'orpaillage. En à peine un an d'existence, Topora est déjà l'un des sites les plus importants de la localité. Pour s'y installer, il y a toute une procédure. Il faut d'abord l'autorisation des superviseurs comme Babada.
Je suis sur ce terrain qui appartient à mon père. Je suis superviseur. Ça fera bientôt un an que je suis là. Avant l'orpaillage marchait, mais maintenant c'est difficile. Jusqu'ici, je n'ai pas encore eu suffisamment d'or, mais je garde espoir. Nous ne savons pas exactement le nombre de personnes qu'il y a sur ce site. Avec ce travail, j'arrive à bien m'occuper des miens.
Sur le site, ils sont des centaines d'orpailleurs venus des quatre coins du Burkina avec un seul rêve, devenir riche. C'est ce qui a conduit Drissa Dambélé, 25 ans ici, il y a un peu plus de 8 mois.
C'est la pauvreté qui nous a menés ici. Lorsque tu réfléchis, tu te dis que tu dois te battre pour t'en sortir. Ce sont des pensées qui nous hantent. On doit s'occuper de nos parents comme il se doit. C'est pour cela qu'on est ici à la recherche du gain.
Pour trouver de l'or, il faut creuser des galeries. Celle-ci fait déjà 40 mètres de profondeur. Mais Adama Zoromé Orpailleur nous explique qu'il faudra creuser encore plus.
Tel que vous voyez ce puits, il n'y a pas de fin. Tant que nous n'aurons pas atteint la zone où il y a de l'or, nous continuerons à creuser. Pour savoir si on a un bon filon, nous enlevons la terre et on fait des essais. Une fois que c'est concluant, nous chargeons cela dans des sacs et ensuite on va à la machine pour la suite.
La machine réduit la terre extraite en une poudre qui sera ensuite tamisée à la main à l'aide d'eau pour trouver l'or tant recherché. Sur son petit périmètre, Martine Palé, la vingtaine en termes d'âge, et son compagnon sont justement à cette phase, une épreuve physique éprouvante pour une dame.
Il y a des fatigues en tout cas, mais on n'aime pas le soir. On ne peut pas s'asseoir aussi pour avoir à manger. Il faut qu'on doit se battre avant de voir.
Martine ne descend pas dans les puits. Elle paie les orpailleurs pour faire le travail. Le reste est une question de chance. De se dire, elle n'a pas encore eu le moindre gramme d'or, mais elle espère. À Topora comme sur les autres sites, la répartition des gains est codifiée comme nous l'explique Dibé Kambou, responsable de puits d'or.
C'est nous qui faisons les dépenses. Donc au moment que nous arrivons le caillou, Si le caillou nous manquait, alors un chemin aussi, on descend, on tape et on met dans des sacs. Donc quand nous faisons sortir, on enlève pour les dépenses d'abord. Le chemin, le nombre qu'ils ont, on divise par deux. Les employés prennent pour eux, nous les patrons, nous prenons pour nous. Donc vous faites ici, bon, on a au nombre de trois tours avec mes éléments qui nous travaillent.
Depuis quelques années, la ruée vers l'or touche une bonne partie de la région du sud-ouest. Dans certains villages, des élèves ont abandonné l'école au profit de l'orpaillage. L'activité n'est pourtant pas sans danger. D'ailleurs, la veille de notre passage, un orpailleur est décédé dans une des galeries du sud de Corgo, située à deux pas de celui de Tokpura. Gildas Da pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Nous sommes en ligne avec Gildas Da pour continuer la discussion. Gildas, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Gildas, pouvez-vous nous parler des principales difficultés que vous avez rencontrées lors de la réalisation de votre reportage sur ce site d'orpaillage de Tokpura, notamment en termes d'accès et de sécurité sur le terrain?
Déjà, il faut dire que pour accéder au site de Tokpura, il nous a fallu un fixeur. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu une sorte de guide. Donc, il fallait informer les superviseurs, en fait, qui sont un peu les propriétaires terriens ou leurs proches. Donc, une fois leur autorisation obtenue, c'est à partir de là qu'on peut accéder sur le site. Et de là, on bénéficie de leur protection. On bénéficie aussi de leur couverture pour le tournage. Donc, il nous a fallu faire deux sites. Hein. Malheureusement, sur le premier site, comme je le dis dans le reportage, il y a un des orpailleurs qui avait perdu la vie la veille. Et donc, la plupart des responsables étaient en train d'accomplir les formalités pour l'enterrement du défunt. Donc, en termes de sécurité, il faut dire que les zones qu'on a traversées souvent, surtout les routes à moto ou à pied, sont remplies souvent de trous, de galeries, des puits qui ont été abandonnés. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire gaffe pour ne pas tomber dans des trous qui font souvent 30 à 40 mètres de profondeur. Et hormis cela, la situation sécuritaire est plutôt bonne dans la zone. C'est vrai qu'il y a eu de temps à autre des braqueurs et d'autres éventuels voleurs qui s'en prenaient aux orpailleurs. Sinon,
justement,
nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières.
Gildas, avez-vous observé des mesures de sécurité ou des régulations spécifiques mises en place pour protéger les orpailleurs et assurer la durabilité de l'exploitation orifère sur le site de Tokpura?
Oui, à Tokpura, je peux vous parler un peu, il y a des mesures qui sont prises, je peux vous parler en fait du ralentissement dans le creusage des galeries, voire même carrément l'arrêt décidé par certains patrons. Vous savez, au Burkina, c'est actuellement la saison des pluies, et le risque d'effondrement des galeries est très élevé, donc il n'y a que quelques téméraires, voire même, je dirais, des têtes brûlées, qui osent s'aventurer, mais au risque de se faire rappeler à l'ordre par les superviseurs. C'est la principale mesure qui existe pour protéger en fait le site, pour éviter qu'il y ait des morts au niveau du site. Donc, hormis cela, il y a aussi un accent un peu faible, hein, mais qui existe quand même, qui est un peu mis sur l'utilisation du cyanure pour empêcher que cela ne provoque des dégâts un peu dans la communauté et dans la nappe phréatique. Donc, il est vrai que le nombre d'orpailleurs à Tokpura n'est pas connu, mais dès que vous arrivez à Tokpura, votre présence est signalée et vous devez obligatoirement aller au niveau des superviseurs pour vous signaler. Donc, c'est un peu le dispositif qu'ils ont mis en place pour voir toute tête étrangère qui viendrait à se retrouver sur place. Donc, c'est en gros ce qu'il y a un peu comme dispositif sécuritaire. C'est vrai que quand ça déborde, il y a la police et la
gendarmerie. En quelques secondes, existe-t-il des initiatives efficaces pour encourager les jeunes à rester à l'école, malgré les opportunités économiques médiates offertes par l'orpaillage?
Oui, Eric, il n'y a pas beaucoup d'initiatives à ce sujet, mais j'ai eu vent d'une ONG dénommée Réseau Afrique Jeunesse qui mène des campagnes de sensibilisation, notamment à l'endroit des élèves et des populations locales. Donc, ça a pour but un peu de les amener à comprendre l'importance de l'école et les graves dangers que courent les jeunes élèves s'ils se retrouvent dans des sites d'orpaillage qui sont des milieux assez difficiles. Mais bon, il faut reconnaître que malgré le peu de succès que cette ONG arrive à avoir, ça reste très difficile. Parce que l'appât du gain prend souvent le pas. Et quand un jeune voit son camarade qui est allé payer une grosse moto parce qu'il est allé faire de l'orpaillage et lui, il est encore à l'école, très souvent, il est tenté d'aller à ce niveau. Donc, hormis l'intervention de cette ONG...
Merci Gildas Da pour toutes ces précisions. Nous avons quelques commentaires de nos auditeurs sur notre page Facebook. Charles Bazema, il dit, je cite, « Il est impératif d'encadrer légalement leur paillage et artisanal et de le moderniser. Cela permettrait d'abord de prévenir les décès inutiles dus aux éboulements, ensuite d'interdire l'exploitation des enfants dans ces lieux, et enfin d'empêcher le financement des groupes terroristes qui déstabilisent nos pays. Une fois modernisé, leur paillage artisanal permettrait aux autorités de mieux contrôler la production d'or et d'en tirer des recettes, lesquelles pourraient être utilisées pour le développement des localités concernées, ainsi que pour d'autres initiatives de développement durable à travers le pays. C'est signé Charles Bazema. Lasga Sek, il dit ceci. Pas plus tard qu'hier, l'armée sénégalaise a fermé des sites d'orpaillage clandestins dans la région orientale du Sénégal. En effet, il existait une menace réelle de pollution de la Falémé, un affluent du fleuve Sénégal, en raison du mercure déversé dans ses eaux. Les terres arables environnantes étaient devenues incultivables à cause de ces chercheurs d'or qui se soucient peu de la dégradation de l'environnement. Pas comme Hassan B, c'est le dernier commentaire, il dit ceci dans le monde actuel. Chaque État doit s'engager à légaliser ce domaine car la famine sévit dans de nombreuses régions de nos pays frères. Et nous approfondissons la discussion avec Seydik Abba, journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Bonsoir Seydik. Oui, alors Seydik, comment les pratiques d'orpaillage au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana se comparent-elles aux autres pays sahéliens comme le Mali et le Niger? Existe-t-il des similitudes dans les défis rencontrés et les stratégies de gestion adoptées?
Non, je mettrai sur le même plan le Ghana et la Côte d'Ivoire qui ont un encadrement de leur paillage beaucoup plus avancé qui permet que la part de leur paillage artisanal ou traditionnel ne soit pas assez importante dans l'activité aurifère. Ça, on peut le voir en Côte d'Ivoire, on le voit au Ghana aussi, puisque le Ghana fait partie quand même des plus grands producteurs africains de l'or. Maintenant, dans une autre catégorie, on mettrait le Burkina Faso, le Mali et le Niger, où le système d'orpaillage, comme on a pu le voir dans le cas du Burkina, échappe en partie aux autorités, au pouvoir exécutif. Le contrôle est assuré, l'autorégulation est assurée par les orpailleurs, par les propriétaires de terrain eux-mêmes, sans que l'État ait pu avoir un contrôle important sur l'activité de l'orpaillage et ça conduit au drame qu'on a pu évoquer dans le reportage à d'autres situations. Voilà un peu comment les situations se présentent. Là où l'État a une capacité importante comme en Côte d'Ivoire, comme au Ghana, l'activité est assez encadrée et ça permet de contrôler mieux tout ce qui se passe autour de sites aurifères. Dans le cadre des pays du Sahel, là où l'État a d'autres défis, le défi sécuritaire, là où l'État n'a pas de capacité pour couvrir l'ensemble du territoire, une bonne partie de l'activité lui échappe considérablement.
Alors, quel est le lien entre leur paillage artisanal et le financement du terrorisme dans la région du Sahel? Quelles mesures peuvent être prises pour réduire ce risque et renforcer la sécurité dans ces zones?
Alors, à partir du moment où l'État n'a pas un meilleur contrôle sur l'activité de l'orpaillage, il ne peut pas avoir la traçabilité de tout ce qui est l'or, l'exportation, la vente, tout ça n'est pas suffisamment encadré. Et une bonne partie, justement, de cet argent est recyclée dans les activités terroristes. Les groupes terroristes eux-mêmes ont compris tout l'intérêt qu'il y a à encourager cette forme d'orpaillage qui échappe au contrôle de l'État. Et le groupe terroriste récupère des taxes sur l'or qui passe par les zones qu'il contrôle pour être exporté. Et eux-mêmes ont souvent des éléments qui participent à cette activité d'orpaillage parce que ça leur rapporte de l'argent. Et à mon avis, il faut absolument, si on veut lutter contre le financement du terrorisme, avoir un meilleur contrôle de cette activité d'orpaillage. D'abord, garantir la traçabilité de cette activité, assurer un meilleur encadrement par l'État, et puis, au lieu que l'or soit exporté, avoir des comptoirs d'exportation de l'or. On sait qu'aucun gramme d'or ne peut sortir comme ça illégalement du territoire national. Si il se contrôle, on peut justement, à partir de ces mesures-là, avoir un meilleur contrôle de toute cette activité, et puis éviter que cet argent soit utilisé pour dans le terrorisme. Prendre, on peut le voir, l'Occident demande aux pays pour lutter contre le terrorisme de mettre en place de surveiller les transferts bancaires. Or, dans la partie sahélienne, le financement du tourisme ne part pas par le circuit bancaire, il passe par le circuit informel, notamment la question de l'or. Donc, si on prend des mesures que je viens d'énumérer, on peut mieux contrôler cette activité-là.
Oui, vous avez anticipé à ma question sur, justement, la possibilité de légaliser cette activité. Il nous reste quelques secondes, Saïdik. Comment l'abandon scolaire lié à l'orpaillage artisanal impacte-t-il le développement à long terme des communautés dans le Sahel?
Absolument. L'école, c'est les ressources humaines. Si on ne permet pas aux enfants de se scolariser, d'avoir des meilleures ressources humaines, l'or ne remplace pas les ressources humaines. Les pays qui se sont développés sont des pays qui ont misé sur les ressources humaines, ça veut dire sur l'école et la formation. Or, aujourd'hui, dans le contexte de pauvreté, beaucoup de familles incitent leurs enfants à aller vers cette activité qui rapporte immédiatement. Mais sur le moyen et le long terme, ce sont ces communautés qui perdent parce que leurs enfants ne seront pas allés à l'école, ils ne pourront pas prétendre à diriger le pays, ils ne pourront pas prétendre à avoir des activités meilleures. C'est pour cette raison, à mon avis, il faut éviter qu'il y ait deux drames, que ces communautés-là subissent d'abord les conséquences de ces activités d'orpaillage avec, sur le plan de l'environnement, sur le plan humain, et puis maintenant que ces activités de l'orpaillage retardent ces communautés parce qu'elles n'auront pas envoyé leurs enfants à l'école. À mon avis, il faudra que les États du Sahel prennent conscience du risque qu'il y a à déscolariser les enfants pour les envoyer dans cette activité qui rapporte immédiatement de l'argent aux parents, mais qui sur le long terme est contre-productive à la fois pour les communautés et pour l'ensemble des pays.
Merci beaucoup, Saïdik Abba, pour votre expertise et précision.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Un mouton, un arbre est une initiative lancée au Niger par des jeunes défenseurs de l'environnement à l'occasion de la récente fête de Tabaski. Cette campagne a pour objectif de promouvoir le reboisement pour compenser les énormes quantités de bois utilisées pour la grillade et la cuisson de la viande. Pour plus de détails sur cette campagne, suivons ce reportage de notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
En ce jour de fête de Tabaski, Issa Kamaman, de retour de la prière collective, immole son bélier comme le veut la tradition. Mais cette année, il accompagne son sacrifice par un autre geste, la plantation d'un arbre pas loin du lieu de sacrifice. Ce sexagénaire a en effet eu écho de la campagne Tabaski Écolo, un mouton, un arbre.
On a tillé et on a planté notre arbre, donc on a remplacé. On a planté les arbres pour remplacer les autres, les bois là qu'on a abattus pour venir cuire nos moutons. On est en train de soutenir l'écologie, donc on plante un arbre et on utilise les charbons minéraux.
En plus de planter un arbre après l'immolation de la bête, la campagne encourage également l'utilisation du charbon comme alternative au bois de chauffe pour la grillade. Le tout dans une vision globale de protection de l'environnement et de lutte contre les effets du dérèglement climatique.
Sachant que l'absence des arbres contribue à la déforestation, à l'avancée du désert, à l'ensablement du fleuve, aux fortes températures que nous observons, mais également à la faible précipitation, donc la sécheresse, nous avons décidé de lancer cette campagne pour appeler les gens à réduire cette consommation de bois, mais surtout en initiant des actions de reboisement le jour de la Tabaski à travers l'initiative Un mouton sacrifié, un arbre planté.
Cette année, la campagne Tabaski Écolo est à sa 7e édition et de plus en plus de citoyens prennent conscience de l'enjeu.
Si chaque personne qui égorge un mouton pourrait
planter un arbre à la place du bois qu'il a utilisé, ça allait retarder un peu l'avancée du désert. C'est pour ça que j'ai égorgé un mouton. Maintenant, je vais planter un arbre. Je fais aussi la promesse que l'année prochaine, moi, je vais distribuer des manguiers, inch'Allah, dans mon quartier. Et je veux que mon quartier soit le quartier où il y a le plus de manguiers au Niger.
Les initiateurs de la campagne entendent la poursuivre et espèrent une prise en main par les pouvoirs publics.
Notre vision, c'est que dans les années à venir, que cette initiative Un mouton, un arbre soit vraiment institutionnalisée, qu'à chaque fois qu'il y a Tabaski, avec ou sans la campagne, que les gens aient le réflexe, en tout cas le réflexe de planter un arbre après les sacrifices. Et d'ailleurs, au-delà, après chaque événement important, on souhaite que les gens plantent des arbres parce que cela va contribuer au reverdissement de notre pays.
Selon une étude du ministère de l'Environnement, la quantité de bois de chauffe utilisée le seul jour de la Tabaski pour la grillade et la cuisson de la viande dans la ville de Niamey est estimée à 50 000 tonnes, soit le quart de la consommation annuelle de bois. Abdelrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Une délégation de haut niveau des Nations Unies dirigée par le coordinateur spécial pour le développement au Sahel, le directeur régional pour l'Afrique au bureau de coordination du développement, a rencontré le Premier ministre malien. Les discussions portaient sur l'engagement de l'ONU à accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans des secteurs essentiels tels que l'éducation, la santé, l'eau, l'énergie et l'agriculture. Cette démarche vise à favoriser la résilience et à promouvoir la stabilité à long terme. Après le Mali, la délégation a poursuivi sa mission dans le Sahel central en s'arrêtant au Burkina Faso. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Amadou Cissé, économiste et ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Monsieur Cissé, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Eric Marina Kiza.
Oui, quels sont les défis économiques spécifiques auxquels les pays du Sahel sont confrontés dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable?
Ah, vous voulez tous les défis? J'espère qu'on a plusieurs heures.
Quelques défis, les principaux.
Quelques défis, d'accord. Voilà, disons que les objectifs du développement durable, disons, répondent aux défis mondiaux qui sont liés, un, à la pauvreté et aux inégalités. Et nous sommes au Sahel, au Burkina et au Mali. Nous parlons de pauvreté, de faim, de maladies, de discriminations diverses. Deuxièmement, aux défis liés au climat et à la dégradation de l'environnement. Alors, je suis heureux d'avoir entendu tout de suite le reportage sur le mouton de Tabaski pour montrer que les choses sont très, très liées. Troisièmement, les défis liés à la prospérité, à la paix et à la justice. Donc, les défis spécifiques économiques liés à l'atteinte des objectifs du développement sont ceux que je venais de grouper selon ces trois ensembles et qui sont visibles de manière très, très, très claire et pertinente au Mali et au Burkina Faso.
Alors, on sait que l'instabilité dans la région du Sahel impacte les efforts de développement durable. Quelles sont, selon vous, les stratégies économiques que vous recommandez pour renforcer la résilience et promouvoir la stabilité à long terme dans ces pays?
Bon, voilà, il y en a beaucoup. Il y a l'instabilité, mais laissez-moi mettre ça dans un aspect beaucoup plus général pour dire que le développement, en fait, doit équilibrer les aspects sociaux, les aspects économiques et environnementaux dans ces régions-là. Alors, il va sans dire qu'en situation de conflit telle que nous l'avons actuellement au Sahel et d'une manière générale dans le monde, par exemple en Ukraine et à Gaza, quand il y a un conflit, les solutions économiques sont automatiquement, disons, prioriser à éteindre ce conflit, à mettre tous les efforts pour, disons, résoudre ces conflits d'abord. Donc, spécifiquement, nous devrions dire il y a les aspects, disons, de gouvernance liés à la fin de ces conflits-là. Et que ce soit, et je dois dire, les conflits de manière générale.
Merci beaucoup, Madou Cissé. Il ne restait plus de temps, malheureusement. Je signale que vous êtes économiste. Merci pour vos explications. Direction Mopti, où la deuxième édition de la semaine artistique et culturelle s'est déroulée dans la Venise malienne. Sous le thème « La culture, facteur de paix, de sécurité, de développement », les organisateurs de cet événement cherchent à utiliser la diversité culturelle de la région comme un atout pour consolider la paix et promouvoir le vivre ensemble. Le programme comprenait des prestations de troupes artistiques et des défis célébrant la richesse et la diversité culturelle de Mopti. Correspondance de Tidiani Ouedraogo en direct de Mopti.
La région de Mopti a été longtemps considérée comme une zone controversée en termes de sécurité. À travers cette manifestation culturelle, les initiateurs veulent mettre la culture au service de la paix.
Cette semaine culturelle est un véritable message à l'endroit de l'Afrique, à l'endroit du monde entier, pour dire que Mopti n'est pas une zone rouge. Pendant cette semaine, nous avons pu célébrer la paix, la cohésion sociale avec l'ensemble des Maliens ici à Mopti. Justement pour dire que le Mopti est debout. Mopti est debout face à cette crise et on a vu une population très résiliente, des communautés très résilientes face à cette situation.
Située au centre du Mali comme un trait d'union entre le nord et le sud, la région de Mopti est habitée par une mosaïque de communautés où règne le vivre ensemble. Et la diversité culinaire est appréciée par les résidents. Cela fait plusieurs années qu'on profite bien du dynamisme du secteur.
Les galettes sont un plat préféré pour le petit déjeuner. Beaucoup préfèrent les galettes plus que le pain, surtout les enfants. C'est mon travail depuis fort longtemps. J'y gagne bien ma vie.
La semaine culturelle a permis aux festivaliers et festivalières de revivifier la diversité de la Venise malienne. Comme Sidi, beaucoup espèrent la relance économique de la région, qui selon lui est le poumon de l'économie malienne.
Nous espérons que ce festival apportera du positif dans notre région. Mopti a toujours été le poumon de l'économie du Mali à travers la pêche, l'agriculture et l'élevage.
Des prestations de masques de gong, des troupes pile et bien d'autres artistes ont émerveillé les festivaliers physiquement satisfaits à l'image de Wali Kampo, une festivalière.
Je suis vraiment contente de participer au festival. Ça fait longtemps que des festivals n'en ont pas organisé ici.
À Mopti, beaucoup estiment que cette manifestation artistique et culturelle est une belle opportunité pour dire renforcer la cohésion sociale et redorer l'image de la Venise malienne. Tidiani Ouedraogo, Mopti, pour VOA.
Merci à Tidiani Ouedraogo. C'est la fin de Focus Sahel. Eric Manilakiza a été avec vous. Merci à nos correspondants qui se sont surpassés pour ces reportages. Merci à Trésor Matondo et Lionel Lunanilagahima pour la réalisation et la production de cette émission. Je vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.